en lui-même le titre, avec ses deux dimensions et tout un programme, à la fois d'actualité et en même temps une réflexion tout à fait structurelle, au fond, sur la région, le rôle de la région. Alors, ils vont se présenter eux-mêmes, comme ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, je vais essayer d'être assez bref dans ma présentation liminaire, et puis j'espère qu'on aura le temps d'avoir un dialogue approfondi sur cet ouvrage. Alors, la singularité de cet ouvrage, c'est qu'ils vous diront eux-mêmes comment c'est né, mais dans leur organisation à trois auteurs, on a une répartition presque parfaite, d'une part d'un ancien élu, ancien premier vice-président du Conseil régional Midi-Pyrénées, d'un ancien haut fonctionnaire de l'administration régionale, Louis Mallet, et d'un chercheur. Donc, vous voyez tout de suite l'intérêt de cette confrontation entre des praticiens, par ailleurs solidement armés et désireux de réfléchir sur leur propre expérience, et un universitaire qui nous dira lui-même quel est l'angle de recherche sur lequel il est parti et qui l'a conduit à s'intéresser à la région. Alors, la résonance forte avec l'actualité, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler, y compris de façon très libre, c'est évidemment le lien avec la relance de la décentralisation à travers l'acte 3, et au fond, les responsabilités des régions, leur positionnement vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires. Et pour tous ceux qui, je l'espère, liront ce livre, vous ne pourrez pas manquer d'être frappé par la multitude des éléments d'expérience à l'intérieur d'un conseil régional, d'expériences qui ne sont pas vues sous un angle strictement narratif. Il y a des éléments, bien sûr, de récit d'expérience, mais qui, à chaque fois, comportent des éléments de réflexion sur le positionnement de la collectivité régionale, son fonctionnement interne, ses relations avec un certain nombre d'autres responsables, à commencer par, évidemment, les responsables de l'État, mais aussi les autres collectivités. Donc, à travers tous ces éléments, on peut dessiner, probablement, un scénario pour ce qu'ils ont eux-mêmes appelé un plaidoyer pour accéder à l'autre rive et sortir de cette période de transition qui dure depuis l'acte 1, finalement, avec un acquis important des réalisations des régions. Alors, je voulais finir quand même cette présentation en signalant un élément. Ceci n'est pas une monographie sur le Conseil régional Midi-Pyrénées. Enfin, moi, en tout cas, travaillant moi-même dans un conseil régional, ici même en Aquitaine, et je salue les collègues qui sont ici, je ne l'ai pas du tout lu comme ça. Je l'ai lu en même temps comme une réflexion un peu plus générale. Alors, il y a les éléments particuliers, bien sûr, à une région, mais je crois qu'il faut le regarder tout à fait autrement, en réfléchissant en même temps à la fois aux conditions même du travail régional et sur la portée des missions de la région. Avec un élément qui me frappe beaucoup, et on en a parlé cet après-midi dans un cadre universitaire, c'est qu'en fait, le terme que les plus anciens d'entre nous ont beaucoup connu de régionalisation est beaucoup moins employé aujourd'hui. Alors, pointait-il exagérément aux yeux de certains cet étage par rapport à d'autres? Je ne sais pas. Renvoyait-il à d'autres acceptions de responsabilité au niveau régional en dehors de la collectivité elle-même, puisque le niveau régional est un niveau très fort d'administration de l'État, de plus en plus, est un niveau très fort pour les socioprofessionnels, est un niveau important de l'organisation de la vie collective en France. Donc parler de la région, c'est parler de la région collectivité, mais parler aussi de la région dans ses différents partenariats et dans les différents systèmes de décision et d'action dans lesquels elle s'inscrit. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire peut-être pour commencer et situer la présentation. Alors, le livre a l'originalité de se présenter sous forme de dialogue, puisque les trois auteurs échangent entre eux tout au long du livre, la dernière partie étant consacrée, elle, beaucoup plus à une ouverture, puis à une brève conclusion après cette cinquième partie, et les quatre autres parties traitant sous des angularités diverses des échanges entre trois. Au début, il y a trois textes, et c'est un peu ça que je leur demanderai en premier, où ils expliquent eux-mêmes pourquoi, de leur point de vue, de premier vice-président, de DGA et de chercheurs, pourquoi ils se sont lancés dans cette aventure collective pour exprimer quoi, à la fois de leur expérience personnelle et de la portée plus générale qu'ils ont envie de lui imprimer. Voilà.
Tu attaques ?
Alors peut-être le chercheur, je ne sais pas.
Merci pour cette introduction. Je ne sais pas si vous avez besoin du micro ou pas.
Oh, si, c'est
d'accord.
Pas
si ah, d'accord.
Oui, ça enregistre.
Donc on va essayer de ne pas dire trop de bêtises alors. Merci d'être venu malgré le soleil. Et merci à la librairie Mola de nous avoir invités pour présenter ce livre. Alors moi, je ne vais pas répondre à la question du pourquoi, mais je vais plutôt essayer de vous raconter comment je me suis engagé dans cette aventure collective, puisque nous sommes trois co-auteurs. J'ai découvert la région, pas parce que je suis un esprit décentralisateur, mais parce que je m'intéressais à comment on construit des dossiers, comment les entreprises construisent des dossiers, les soumettent à la région, comment ces dossiers-là passent de comité en commission, comment ils sont évalués, etc. Donc je suis rentré par la région, par le biais des papiers qui circulent, qui sont évalués, qui sont expertisés, etc. Et j'ai fait ça il y a 10-15 ans, c'était au moment où je démarrais ma thèse. Et c'est à cette occasion-là où j'ai rencontré Louis Mallet, qui était un de mes interlocuteurs, qui était un des opérateurs, qui regardait un peu ces différents services et ces différents dossiers passés de main en main. Et puis plus récemment, parce que je me suis engagé, finalement, il y a 15 ans, je m'intéressais assez peu aux élus, finalement, je m'intéressais davantage au papier. Puis plus récemment, je me suis intéressé aux élus en faisant le pari qu'ils travaillaient. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, je vais m'intéresser au travail politique. Travail politique, et donc je suis allé rencontrer, alors pas tous les élus à la région, je m'intéressais essentiellement aux vice-présidents.
À ceux qui travaillaient.
À ceux qui travaillaient, bien sûr.
Ah, mais les vice-présidents travaillent, bien sûr.
Oui, ils travaillent. Et donc à cette occasion-là, donc c'est une enquête qui se fait sur 5 régions avec d'autres chercheurs, des politistes, des sociologues. Oui, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Michel Catlat, je suis sociologue, enseignant-chercheur à Toulouse 2 et membre du laboratoire CERTOP. Dont on travaille sur les questions de travail, marché, organisation, choses comme ça. Et donc c'est là où j'ai rencontré Alain Beneteau, qui était un élu qui travaille énormément. Et donc parce que j'avais rencontré ces deux personnes-là, qui m'avaient présenté chacun la région d'une manière un peu différente, mais qui se connaissaient aussi par ailleurs, et parce que d'autres personnes sont venues un peu jouer les catalyseurs dans cette rencontre ou dans la constitution de ce groupe à trois, on a eu l'envie, en tout cas, pas forcément partagée, parce qu'on a, comme ça a été dit dans l'introduction, on ne part pas du même point de départ, mais en tout cas, on a eu l'envie concomitante, en tout cas, d'écrire sur la région à un moment donné. Alors, comment on s'y est pris ? On avait plusieurs options. On souhaitait, on aurait pu écrire un ouvrage signé à trois, de manière indifférenciée, sans qu'on puisse reconnaître qui a écrit quoi, etc. Et on trouvait que c'était dommage parce que, après les heures et les heures et les heures d'entretien, on s'est rendu compte qu'un des éléments intéressants, c'était justement de donner à voir la confrontation des différents interlocuteurs, de voir le point de vue de l'un évoluer au fil des échanges qu'il avait avec l'autre, etc. Donc on a un peu écarté assez rapidement l'idée de l'ouvrage monolithique qui aurait finalement privé le lecteur de ces échanges, de ces modifications au cours du récit, du point de vue, ou plutôt de comment chacun, dans sa réflexion, affine son point de vue au fil des échanges. Une deuxième alternative consistait à dire, bon, on peut faire un bouquin de type bouquin collectif, assez classique, avec une succession de chapitres, chacun fait son chapitre, et puis à la fin, on ferait une belle synthèse qui viendrait pour permettre une lecture un peu transversale. Mais finalement, ce système-là ne résolvait pas le problème de l'échange, finalement, puisqu'on avait une succession de prises de parole sans réel échange. Donc on a opté pour une formule un peu originale que moi-même, je n'avais jamais expérimenté. C'était de proposer une lecture un peu polyphonique de cette région-là, c'est-à-dire un dialogue à trois autour de certains thèmes qu'on a balisés, qui viennent structurer l'ouvrage en une série de chapitres. Alors l'intérêt, il est à la fois de voir les interlocuteurs principaux, à ma droite et à ma gauche, échanger, parfois se confronter, parfois se rejoindre au fil des échanges. Donc je trouvais que c'était déjà un des résultats intéressants, c'est-à-dire que la réflexion, on voit la réflexion en train de se construire au fil des pages. Mais c'était aussi un moyen pour moi qui m'intéressait à ce moment-là et qui m'intéresse toujours à la question du travail politique, de voir ce travail politique non pas comme le monopole des seuls élus, mais comme s'inscrivant dans un collectif assez large qui, bien évidemment, comprend les élus. Alors, on voit bien qu'il y a, quand on dit les élus, on ne dit pas grand-chose, parce que entre le président, le vice-président et l'élu de base, l'élu de l'opposition, ce sont des mondes radicalement différents. Mais aussi le monde de l'administration qui se compose de gens assez divers et qui, par moment, peuvent également participer à la conception politique. C'est, je pense que c'est un des points forts de cet ouvrage-là, savoir quelle place on occupe, quel rôle on occupe et comment on coordonne finalement cet ensemble de personnes. Donc on voit bien que ce choix de méthode n'est pas qu'un choix de méthode permettant de révéler, de dévoiler le raisonnement de chacun des auteurs, mais c'est aussi, ça permet également de produire des résultats très tangibles, ne serait-ce que de dire de manière assez modeste, peut-être assez triviale, parce que peut-être que ça c'est évident pour beaucoup de personnes, que le travail politique est un travail qui s'inscrit dans un collectif qui mêle des élus, mais aussi des agents, pour le dire rapidement. Alors, bon, je vais passer un peu sur ça. Le principe, ou en tout cas les principes qui ont guidé la rédaction de cet ouvrage-là, sont au moins au nombre de trois. Premièrement, on a essayé, comme ça a été dit à l'introduction, de trouver un équilibre entre ce qui relevait de la région Midi-Pyrénées, puisque les expériences ont été vécues dans la région Midi-Pyrénées, mais en évitant l'écueil de l'anecdote, du trop local, du trop situé, et en mettant aussi en avant des éléments qui puissent être généralisables dans d'autres régions. Donc ça a été notre premier souci, c'est-à-dire chaque fois qu'on évoquait un cas, une situation, on se disait, mais est-ce que c'est du 100% Midi-Pyrénées, puis sorti de là, ça n'a plus aucune valeur, ou alors au contraire, est-ce qu'on peut étendre cette réflexion-là à d'autres régions. Le deuxième principe a été un principe que moi j'appelle déontologique, qui consiste à dire que cet ouvrage-là n'a pas été fait, n'a pas été pensé, n'a pas été conçu pour régler des comptes, pour dénoncer telle pratique, pour dévoiler tel événement qu'on avait caché, etc., ou pour incriminer quelqu'un, etc. Donc l'idée, c'était de ne pas être, alors peut-être qu'on aurait dû, peut-être qu'on aurait eu plus de succès, en mettant en avant des scoops, mais non, il n'y en a pas. Donc on a souhaité garder un ton un peu neutre, un peu réservé, enfin je ne sais pas comment vous allez dire, mais réservé. Et puis troisième élément, si on se disait, il faut que quand même l'ensemble de ces éléments que l'on va exposer puissent être mis en discussion, donc c'est ce qu'on fait en allant de librairie en librairie pour présenter cet ouvrage-là, mais puissent être aussi discutés dans d'autres instances qui peut-être réfléchissent sur demain la décentralisation, comment on pourrait la penser, l'imaginer, la réformer. Et donc l'idée, c'était aussi d'apporter des éléments de connaissance, des apprentissages pour participer, même modestement, à identifier quelques dysfonctionnements, à mettre le doigt sur des éléments qui nous paraissent importants pour penser à décentralisation demain. Alors, du point de vue du sociologue, ce travail-là m'a vraiment intéressé et je trouvais que c'était un exercice vraiment intéressant parce qu'il m'a permis finalement de redécouvrir la région que je pensais un peu connaître, mais finalement je me suis rendu compte que je ne la connaissais pas si bien que ça, au prisme de plusieurs angles d'attaque, de disciplinaires, je dirais. D'abord, ça m'a permis de développer une sociologie assez classique, sociologie du travail, sociologie des organisations, mais qui est rarement mise en pratique sur ce genre de terrain. Les conseils régionaux sont habituellement ou globalement le terrain privilégié des politistes, qui ne s'intéressent a priori pas trop aux pratiques, qui ne s'intéressent pas trop au mode de coordination, etc. Donc c'était pour moi l'occasion de développer une sociologie du travail des organisations très classique, mais dans un milieu qui n'avait pas trop été exploré sous cet angle-là. Deuxièmement, ce qui m'intéressait, c'était de revenir sur les conditions biographiques d'un tel travail, c'est-à-dire que les protagonistes de ce récit, moi j'appelle ça une épaisseur biographique qui fait que quand on rentre dans un mandat, on a telle conception du travail, on a telle vision, on considère que le cœur du métier ça ressemble à ça, et puis en fin de mandat ou après deux mandats, ben, cette conception-là, elle a évolué. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi comment à la fois les membres de la région construisent l'institution, mais à la fois comment cette institution-là les construit eux-mêmes, ou les transforme, ou les déforme, ou parfois les détruit, puisque les cas de malaise au travail dans les régions, vous en savez quelque chose, existent et sont latents. Et puis un troisième élément qui m'a particulièrement intéressé, c'était, ou sur lequel j'ai beaucoup insisté auprès de mes deux interlocuteurs, c'était de les faire parler sur des situations très concrètes. C'est-à-dire que le cas, la situation, l'exemple, au-delà de son pouvoir d'illustrer des propos qui peuvent paraître un peu abstraits, au-delà de ça, ce sont des bonnes occasions pour montrer comment le travail se fait réellement, comment les choses se font, qui fait quoi, comment on s'y prend. Et donc, en prenant quelques exemples tangibles, très concrets, presque qui relèvent de la vie quotidienne. Hein, comment on organise un horaire de train, comment on décide de connecter telle commune au réseau au débit ou pas, etc. Enfin, des choses. Est-ce qu'on finance telle association culturelle ou pas? Bon, des choses très, très, très banales, finalement. On arrive à mieux comprendre, il me semble, comment non seulement les gens travaillent, mais comment une institution comme la région peut gagner en visibilité ou pas, décide de s'engager ou pas, bon, etc. Alors, d'un point de vue académique, puisque c'est une des questions qui m'a été posée cet après-midi, à laquelle je n'ai pas répondu vraiment, c'est un pari que je fais dans le sens où l'institution universitaire ne va pas me reconnaître à travers cet ouvrage-là, pour le dire rapidement. D'abord parce que je suis sociologue et que les gens, en lisant ça, vont peut-être penser que je fais des sciences politiques. Et les politistes vont se dire, mais il est trop sociologue, ce gars-là. Bon. Donc, c'est toujours le même problème. D'autre part, il n'y a pas de bibliographie, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de référence à des, de manière très volontaire.
Donc, c'est lisible par tout le monde.
Voilà, c'était ça la traduction.
J'insiste.
Même si, en filigrane, le lecteur, le sociologue, découvrira très rapidement de quoi il en retourne. Ça, c'est un peu pour le comment. Oui. Un mot juste sur la structure, peut-être, de cet ouvrage-là, qui comporte quatre grandes parties. La première, qui fait suite à l'introduction, à la préface, pardon, de Michel Rocard, nous fait rentrer dans les coulisses de la fabrication de la région. Et moi, il y a un résultat tangible qui me paraît vraiment important, c'est de voir comment les régions, dès leur conception, sont très mal parties. Sont très mal parties parce que elles ont hérité finalement de ce que les autres ne voulaient pas. Je vais le dire rapidement, puis je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Dans la deuxième partie, on rentre au cœur de la région, et là, cette fois, on visite l'ensemble des commissions qui la constituent, le rôle des uns et des autres, la manière que les services ont de travailler avec tels élus ou pas, etc. Donc, on rentre vraiment dans la mécanique interne, dans les rouages internes de l'hôtel de région. La troisième partie, on sort un peu, on prend un peu de hauteur et on voit cette fois la région en relation avec d'autres institutions, que ce soit l'État, que ce soit les départements, que ce soit des associations, etc., les satellites. Donc on voit finalement une région prise dans un réseau institutionnel extrêmement large qui sans cesse cherche finalement à renouveler, à créer, à renforcer sa légitimité, à faire ce qu'elle fait, ou en tout cas, ou à se créer un espace d'action. Puis la quatrième partie, cette fois, est tournée vers l'avenir, dans le sens où on a essayé de lister quelques éléments qui nous paraissaient importants, quelques enjeux qui nous paraissaient importants pour penser les compétences de la région demain, s'il fallait la réformer ou s'il fallait engager une réforme des collectivités territoriales. Voilà un peu pour l'introduction qui résume un peu le comment on s'y est pris. Voilà.
Peut-être quand même une petite précision. Il n'y a pas de bibliographie au sens universitaire, référencé, etc., dans les normes bien connues. En revanche, il y a des encarts documentaires qui, eux, peuvent, pour le lecteur moins initié, on va dire, à l'histoire des institutions régionales, donner des points de repère importants, y compris sur un certain nombre de lois, un certain nombre... Voilà. Donc, je donne cette précision pour les futurs lecteurs. Hein, c'est un ouvrage qui, de ce point de vue, a aussi une fonction documentaire, quand même. Louis, peut-être ?
Vous expliquez en quelques mots en quoi notre bouquin est extrêmement actuel. D'abord, il est extrêmement actuel parce qu'il s'appelle « Les régions françaises au milieu du gué » et qu'un de mes fils, quand je lui ai montré ça, m'a dit « C'est très intéressant d'avoir l'histoire des gués en région. » Alors ensuite, pourquoi c'est actuel ? C'est parce que le jeudi dernier... il y a eu une communication au Conseil des ministres qui est largement passée inaperçue parce que c'est le jour où notre président François Hollande s'adressait aux Français, le soir. Donc cette communication est complètement passée à l'as dans la presse. Or, c'est une communication sur le projet de loi de décentralisation que le gouvernement s'apprête donc à arrêter, puis à proposer au Parlement, probablement à l'automne. Et alors, j'ai envie de revenir là-dessus parce que, de façon un peu provocatrice, mais enfin, ça permet aussi de discuter, ce projet de loi contient à peu près exactement tout le contraire de ce qu'on dit dans notre livre. À peu près exactement. Ce qu'on propose dans notre livre, c'est une nouvelle étape de décentralisation. Au milieu du gué, ça veut dire qu'il faut, une nouvelle étape. Une nouvelle étape, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord faire un choix entre les différents niveaux de collectivité dans notre pays, puisque tout le monde est à peu près d'accord sur le fait quand même que l'empilement actuel des collectivités est à terme pas tolérable, à la fois pour des raisons d'efficacité, pour des raisons de finances publiques et pour des raisons de lisibilité de l'action publique. Donc on dit très clairement dans notre livre qu'il faut aller à terme, pas demain, pas après-demain, mais à terme, la bonne idée, c'est quand même de garder quatre grands niveaux de gouvernance, que sont les communautés de communes, les régions, l'État et l'Europe. Et que ça paraît assez raisonnable, ça n'est pas un trop grand nombre de niveaux, c'est des niveaux qui correspondent bien à des circonscriptions de l'action publique, mais en creux, ça veut quand même dire qu'à terme, l'influence des communes va baisser, l'influence des départements va baisser, et qu'on va vers une nouvelle structuration, finalement, de la répartition des pouvoirs. Le texte du projet de loi, enfin, l'exposé des motifs du projet de loi, dit exactement le contraire, au sens où il confirme toutes les collectivités, et au sens où il en rajoute une, puisqu'il crée un échelon nouveau, ou du moins il donne beaucoup de pouvoir à un échelon nouveau, qui est celui des métropoles, c'est-à-dire les grandes agglomérations qui font plus de 400 ou 500 000 habitants, qui se voient dotées dans ce texte de pouvoirs nouveaux, qui sont d'ailleurs en partie pris à d'autres niveaux de collectivité. Pourquoi est-ce qu'on s'oppose totalement aussi à ce texte? Ce texte réaffirme un principe constitutionnel français extraordinairement important sur le problème de la décentralisation, qui est le principe de non-hiérarchie des collectivités entre elles. Une collectivité ne peut pas avoir de pouvoir sur une autre collectivité dans la Constitution française. Nous disons exactement le contraire, c'est-à-dire que nous disons que si on veut promouvoir les régions, il faut donner au niveau régional une personnalité juridique nouvelle, une force nouvelle, et faire ce qui se passe dans les grands autres pays européens, notamment l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, c'est-à-dire que il y a des collectivités en quelque sorte de premier rang qui ont une certaine autorité sur les autres, notamment les collectivités plus petites. Cet élément-là est tout à fait fondamental pour nous, et on le dit dans le livre. Pourquoi? Parce que dans un système où les collectivités n'ont aucune hiérarchie entre elles, l'État central reste forcément très fort. Parce que l'État central, il existe à tous les niveaux. L'État central, c'est un interlocuteur de la région, c'est un interlocuteur du département, c'est un interlocuteur de la ville ou de la commune. Et donc, s'il est bien coordonné, l'État central, il joue à tous les niveaux face à des collectivités qui, elles, ne sont pas hiérarchisées, ne sont pas coordonnées. Ce qui lui donne un pouvoir absolument considérable par rapport à ces collectivités tant qu'elles ne sont pas elles-mêmes hiérarchisées entre elles. Pourquoi est-ce qu'on est en opposition frontale aussi à ce texte? Ce texte réinstalle la clause de compétence générale qui veut dire simplement que toute collectivité peut intervenir dans n'importe quel domaine d'activité, sauf ceux qui lui sont interdits. Je résume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des domaines comme la culture, comme le sport, comme des domaines qui ne sont pas très fortement régis par des réglementations nationales, toutes les collectivités peuvent intervenir. La commune, la communauté de communes, le département, la région, etc. Or, la position que nous prenons dans notre livre est de dire que si on veut clarifier l'action publique et la rendre plus efficace, il faut au contraire abolir cette clause de compétence générale et répartir entre les collectivités des compétences précises qui, si possible, ne se recouvrent pas, sauf dans un certain nombre de situations où il y a une vraie valeur ajoutée à un travail collectif entre les collectivités, ce qui peut exister, mais ce n'est pas dans tous les domaines. Et notre expérience, c'est que l'exercice de la clause de compétence générale aboutit dans un système non hiérarchisé à des discussions interminables entre les collectivités, à une perte d'efficacité et à des gabegies financières qui seraient évitées si les compétences étaient un peu mieux cadrées. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord encore avec ce projet ? Ce projet, pratiquement, ne transfère aucune compétence nouvelle aux régions et très peu, d'ailleurs, aux autres niveaux. Or, la position qu'on défend dans notre livre est qu'il y a des domaines dans lesquels il conviendrait de dépasser le milieu du gué et donc d'aller vers plus de compétences données aux régions. Dans un domaine qu'on connaît bien, que Robert connaît bien, le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, on est très nombreux à penser depuis de nombreuses années qu'il faut donner aux régions les formations de niveau 5 et de niveau 4, les formations professionnelles de niveau 5 et de niveau 4, c'est-à-dire niveau CAP, BEP et niveau bac professionnel, en gros, et leur donner aux régions tous les moyens relatifs à ces formations et pas seulement les moyens réduits que les régions ont aujourd'hui. On pense aussi que les régions devraient se voir attribuer des compétences beaucoup plus larges sur le secteur de l'information et de l'orientation, qui, dans l'actuel projet, reste de compétences d'État. Le dernier point, quand même, c'est que ce projet de loi, en plus de tout ce que je viens de dire, crée ce niveau des métropoles qui va quand même poser des problèmes considérables. Pourquoi ? On va prendre l'exemple de chez nous, mais je pense qu'en Aquitaine, on serait pas très très loin de cet exemple-là. Sur la région Midi-Pyrénées, il y a la capitale régionale, Toulouse, et son agglomération, aujourd'hui pas très loin d'un million d'habitants, je pense. Hein
L'agglo, oui.
Hein, l'agglo, bon. La préfecture la plus importante doit faire
60 000 habitants.
Donc si on crée, si on donne beaucoup de pouvoir à la métropole toulousaine et à son environnement, qu'est-ce que va faire la région ? La région va devoir s'occuper de tout ce qui, finalement, de tout ce qui n'est pas la métropole, d'une certaine façon. Donc tout le travail, et de ce point de vue-là, moi j'ai trouvé que l'action de Martin Malvy était intéressante et intelligente souvent. Tout le travail qui consistait à essayer de promouvoir l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, avec un discours consistant à dire ce qui est bon pour la capitale régionale est bon pour la région, et ce qui est bon pour la région est bon pour la capitale régionale. Toute cette politique globale qui permettait un aménagement du territoire un peu équilibré dans des tas de domaines, dans le domaine économique, dans le domaine universitaire, etc., tout ça va être rendu extrêmement difficile par des compétences et des financements très larges qui seront exercés par les métropoles. Donc voilà, c'est un message plein d'optimisme donc, que je délivre sur ce qui va se passer. Je termine cette introduction simplement sur un point. Pourquoi est-ce que ce travail élu administration, élu technocrate en quelque sorte, a été la base de ce bouquin pour moi et pourquoi est-ce que ça m'a beaucoup intéressé parce que je pense que c'est un problème récurrent dans beaucoup d'organisations dans notre pays, et pas seulement dans notre pays. Il y a une légitimité démocratique, une légitimité de l'élu, une légitimité du suffrage universel, et il y a une légitimité, entre guillemets, de la compétence, et ces deux légitimités se construisent, s'affrontent. Et notre conviction, c'est quand même qu'une bonne organisation du travail entre ces deux légitimes, en quelque sorte, pour des raisons différentes, est un gage d'efficacité. Et que on plaide quand même pour que ce couple élu administratif, élu technocrate, qui est assez important dans le fonctionnement de toutes les collectivités, ce qui n'est pas très vrai dans les systèmes de gestion de l'État, mais c'est très important dans les collectivités, pour que finalement, on travaille à une meilleure articulation de ce couple avec des missions plus claires, mieux définies qu'aujourd'hui, dans un paysage institutionnel qui, on pourra en reparler, aujourd'hui, nous semble, dans les régions, mélanger diverses missions à la fois pour les élus et pour les administratifs. Voilà, on pourra revenir sur cette question après parce qu'elle est assez centrale dans le bouquin.
Bien, donc je complète le trio en quelques mots puisque je crois que le temps est court et que j'aimerais bien qu'on puisse échanger sur quelques points. On n'abordera que quelques points, mais j'aimerais bien que cette discussion ait quand même lieu. Très très vite, d'abord pourquoi j'ai travaillé sur ce projet. J'ai été élu au Conseil régional en 1986, j'ai été élu sur la liste de Haute-Garonne, dans l'opposition sur deux mandats de 86 à 98 et dans l'exécutif de 98 à 2010 avec entre 98 et 2004 la fonction de premier vice-président. Je peux donc dire que j'ai suivi, on va le dire comme cela, la montée en puissance d'une région à partir de quelque chose qui était bien incertain en 80, lorsque les lois, 82, lorsque les lois de décentralisation ont été votées. Et dans le livre, je cite un peu une anecdote. Lorsque je rencontrais le président de l'établissement public régional de l'époque, Alain Savary, ça devait être en 77 ou 79, mais c'était l'institution qui annonçait les régions, je le rencontrais dans ce que je vais appeler la cuisine d'un F5 sur un boulevard, je dirais, de Toulouse. Alors, si les régions sont mal parties, je dirais qu'elles sont quand même parties. Et quand on regarde ce qui s'est passé entre les lois de 82 et maintenant, il suffit de regarder l'immobilier des conseils régionaux pour se dire qu'elles ont leur place dans le paysage. Je ne dirai pas grand-chose sur la partie opposition de mon mandat, c'est très frustrant, mais je dirais presque que la partie de participation à l'exécutif est encore plus frustrante. Pour la bonne raison que, alors, je parle en régionaliste convaincu, et je fais référence à une histoire qu'on ne va pas développer, mais quelque chose qui revient de loin, c'est pas par hasard que Michel Rocard a accepté de signer notre préface. C'est tout un mouvement qui vient de loin, et pour moi, pour ce qui concerne ma vie politique, elle a été très marquée par le phénomène régional. Pourquoi frustré par l'exécutif? C'est parce que j'ai le sentiment que, avec, et en cette période où on parle beaucoup de modernisation de l'action publique, d'économie, de faire autant avec pas plus de moyens, je pense que les régions, avec une réflexion sur leur organisation du travail, et là je renvoie aux sociologues, pourraient faire beaucoup mieux et beaucoup plus. Ça c'est déjà un premier constat. Il suffirait tout simplement d'avoir une discussion entre les élus, l'administration, et de regarder comment ça marche. Et juste de signaler par exemple que lorsque les régions disent aux acteurs autour d'elles qu'il faut travailler en transversalité, elles sont dans l'incapacité totale elles-mêmes de travailler en transversalité. C'est-à-dire que le directeur général des services veille jalousement à ce qu'il n'y ait aucune porosité entre telle direction et telle direction. Alors qu'on prône auprès des acteurs la nécessité de le faire en disant « on ne peut réussir que comme cela, nous-mêmes, on est bien incapables de le faire ». Ça tient un peu, je dirais, au comportement des personnes. Et puis, il y a des questions réglementaires. Et donc, ces questions réglementaires, on les liste bien dans le livre. Et donc, ma frustration, je l'ai bien ressentie pendant deux mandats, et je me suis dit, il faut quand même écrire quelque chose. D'abord, pour montrer comment on pourrait faire mieux et plus. Et puis, quand même, et là, Louis l'a bien développé, on s'est dit quand même que ça tombait pas trop mal, quoi. Quand on s'est mis à travailler, on avait quand même à l'horizon la loi décentralisation. Et donc, c'est pas pour le plaisir d'écrire quelque chose qu'on s'est dit, il faut prendre la plume. Mais c'est tout simplement pour essayer, oui, de développer un plaidoyer pour accéder à l'autre rive, convaincu que les régions ont une place particulière dans le paysage des collectivités en France et que on ne peut pas rester dans l'état où on se trouve aujourd'hui. Donc, naïvement, on s'est dit, ben, on va apporter quelques idées au débat sur la décentralisation. Et Louis a dit que le projet de loi disait tout le contraire de ce qu'on dit. Ça, c'est déjà un premier constat. Mais il y a un autre constat. Et si vous suivez la presse et l'actualité, vous verrez que toutes les organisations d'élus, tous les grands élus, y compris président de région, je pense au président de région Rhône-Alpes, tous les élus sont contre le projet de loi. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout ce qu'on dit dans le bouquin, quoi. S'ils étaient d'accord avec ce qu'on dit dans le bouquin, contre le projet de loi, on aurait gagné la partie. Mais on se rend compte, en fait, que, Michel le disait, la décentralisation est mal partie. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais je le redis. On a donné aux régions, en 82, un peu ce qu'on ne savait pas très bien placer ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on a mis un petit peu des choses là, mais sans grande construction, sans grande idée préconçue sur ce que devaient être les régions. Climat de l'époque, si je prends le pouvoir, c'est pour vous le rendre, etc., etc. Donc, une avancée démocratique. Et au moment même, aujourd'hui, où il y a quand même une grande méfiance des concitoyens sur la vie politique, où on se pose des questions sur où faut-il agir pour le développement économique, pour développer au mieux l'innovation, je le redis encore, nous, naïvement, on a pensé que la région était le territoire pertinent, comme on dit. Et on a le sentiment que tout le monde n'en est pas complètement convaincu. Tout simplement parce qu'en France, on est dans un, vous le savez, c'est pas aux Girondins que je vais expliquer le jacobinisme quand même, mais bon... Mais je pense qu'il y a des gens qui vont à reculons vers cette décentralisation et qui n'en veulent pas. Et il y a un discours officiel, y compris au niveau gouvernemental, qui est de dire « Ah, si en France on veut développer l'économie, c'est pas auprès des grands groupes qu'on le fera, c'est auprès des PME. » Ça, c'est le discours, je dirais, politiquement correct. Et c'est vrai, et là, on peut le constater, c'est qu'au niveau du développement économique, de l'innovation, de la rencontre transversale entre l'université, la recherche, la PME, ce n'est pas au niveau gouvernemental. On s'en est tellement bien rendu compte au niveau gouvernemental qu'on a voulu créer une banque publique d'investissement. Et cette banque publique d'investissement, je pense, était un excellent outil pour le développement économique, mais à une condition, c'est que cette banque publique d'investissement soit pilotée par les régions, puisqu'on reconnaît que les régions sont. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Première chose, c'est de se dire, surtout, ne laissons pas la BPI aux mains des régions. Et ça, c'est vrai que nos concitoyens, probablement, n'ont pas pointé le fait, parce que c'est très au-delà de ce qu'ils voient, qu'au conseil d'administration, les régions sont minoritaires. Et quand il a été question, et Dieu sait si c'est un sujet y compris sensible ici en Aquitaine, mais quand il a été question de choisir le directeur de la Banque publique d'investissement, on a dit, voilà celui qu'il nous faut, mais voilà celui qu'il ne nous faut pas, quoi. Enfin, je vais le dire de manière un petit peu abrupte. Mais tout ça, ça peut apparaître anecdotique, mais c'est très révélateur. Ça veut dire que sur le fond, aujourd'hui, on peut être très inquiet sur l'acte 3 de la décentralisation. Et Louis abordait un point sur la question de la simplification, du fameux millefeuille, etc. Il a eu la prudence de dire « c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, mais c'est à plus long terme ». Bon, tout le monde, quand on aborde cette question-là, pense bien sûr au département. Et moi, ma conviction, c'est que, même si je ne suis pas départementaliste, il faudra du temps pour que... Mais il va falloir clarifier les compétences. Mais quand on voit qu'on va créer ces pôles métropolitains pour une région comme Midi-Pyrénées, je connais bien l'Aquitaine, mais je connais moins bien l'Aquitaine quand même, mais pour la région Midi-Pyrénées... En plus, ce qui se construit, c'est que le pôle métropolitain, ce sera à Toulouse, plus les villes chefs-lieux de département. Et si cela a des compétences universitaires, innovation, développement économique, ben regardez la carte, qu'est-ce qui reste à la région? Alors, probablement que la ministre en charge du dossier, qui est Marie-Lise Le Branchu, a bien vu les difficultés. Mais quand on l'entend sur les plateaux de télévision, et puis c'est quand même dans les textes, eh bien, on renvoie à la sagesse des élus dans le cadre d'une conférence territoriale pour qu'ils s'entendent et que, en personne polissée, etc., eh bien, qu'ils se partagent les choses. Or, deux mandats dans l'exécutif, mais je pourrais avoir je pourrais écrire trois bouquins comme ça pour montrer que ça ne marche pas. Parce que, et ça ne marche pas nulle part. C'est quand les pouvoirs existent, eh bien les pouvoirs, s'il n'y a pas des cadres, s'il n'y a pas des règlements, s'il n'y a pas des textes, etc., ils ne s'entendent pas. Et le travail d'un pouvoir par rapport à un autre pouvoir, c'est de faire en sorte qu'il ait encore un peu plus de pouvoir et que l'autre pouvoir en ait un peu moins. Je ne crois pas à la bonne volonté d'une conférence territoriale pour régler les problèmes. Ça ne marchera pas. Et c'est pour cela qu'on peut être très, très, très inquiet sur ce qui est en train de s'annoncer. Alors, l'autre inquiétude, tout à l'heure, Louis disait, le texte est contre tout ce qu'on dit. Ou on va dire que nous, tout ce qu'on dit est contre le texte. Bon, mais enfin, voilà. Mais on pourrait être un peu optimiste. Quand je disais, les grands élus, je citais Jean-Jacques Caran, qui dit, ce texte, il faut le foutre à la poubelle, il faut tout réécrire. Le problème, c'est que je ne vois pas annoncé par ces assemblées d'élus, que ce soit les présidents de conseils généraux, que ce soit les présidents de régions, que ce soit les présidents de petites villes ou de grandes villes ou de villes moyennes, ils n'avancent aucune proposition. C'est-à-dire, ce qui ressort de tout cela, c'est, je le traduis peut-être un peu vite, mais moins on changera de choses, mieux ça marchera. Et c'est cela qui est quand même un peu inquiétant. Alors nous, dans le texte, on fait quelques propositions. Alors c'est vrai que ces propositions, on aimerait bien en débattre, mais le problème, c'est qu'on ne rencontre pas beaucoup d'interlocuteurs, quoi. On a de la difficulté à rencontrer nos interlocuteurs pour débattre de ces questions. Et moi, c'est une question qui m'interroge. Quand on a présenté le livre à Toulouse, pourtant c'était Toulouse, c'était Midi-Pyrénées, on est de Toulouse, je vais dire, bon, il y avait un élu qui est venu. Alors que je le sais qu'énormément d'élus sont probablement d'accord avec ce que l'on dit. Donc on cherche des relais d'opinion. On voudrait bien que ce débat existe. Mais il a énormément de peine à émerger. Bon, nous, on fait des propositions. Simplification, suppression de la clause de compétence générale, etc. Et puis je mets l'index sur une proposition qui, à mon avis, changerait complètement la vie des régions, sans aller jusqu'à ce qu'on appelle le fédéralisme, parce qu'il ne faut pas rêver non plus, l'État français, c'est l'État français. L'État fédéral allemand, c'est l'État fédéral allemand. Les grandes régions, alors on joue de malchance. Parce que quand les gens qui n'aiment pas les régions en France voient ce qui se passe en Espagne, ils disent, vous voyez bien, s'il y a la dette en Espagne, eh ben, vous voyez bien que les régions, elles ne sont pas foutues de... Donc, n'allons pas jusque... à la notion de fédéralisme en France, ça serait complètement utopique. Mais par exemple, une proposition qui pourrait très bien être dans les textes, on dit que les régions vont avoir, ça a été des annonces gouvernementales, des pouvoirs réglementaires, des pouvoirs normatifs. Tout cela, c'est du domaine de ce qu'on appelle dans le bouquin le législatif. Il faut bien légiférer pour définir un certain nombre d'éléments qui seront du règlement, de la norme, etc. Or, aujourd'hui, un conseil régional, c'est un exécutif. Les textes disent d'ailleurs que l'exécutif, c'est le président. À la limite, c'est le seul. Les autres sont là, mais l'exécutif, c'est le président. Et le président préside l'exécutif, avec ses vice-présidents, ses élus et tout le monde. La commission permanente, qui entérine... Bon, enfin, la commission permanente, qui est l'organe exécutif, qui quand même, quelque part, faut le dire, est un verrou pour éviter que l'exécutif président ne fasse n'importe quoi, parce qu'il pourrait faire n'importe quoi, donc il est quand même un peu surveillé, les textes l'ont un peu prévu, mais il préside l'Assemblée régionale. Et donc, quand le président présente son projet au nom de l'exécutif, c'est lui qui fait le discours devant l'Assemblée régionale, devant les élus, qui est le législatif, entre guillemets. Et si je reviens à la notion de pouvoir réglementaire et normatif, n'est pas l'exécutif qui devra statuer là-dessus, c'est l'Assemblée régionale. Donc, proposition très simple, et qui ne va pas jusqu'au fédéralisme, c'est qu'il y ait un président de l'Assemblée régionale et un président de l'exécutif. Ça existe en Corse. Pourquoi est-ce qu'on ne le généraliserait pas aux régions françaises ? Alain Rousset, président de l'exécutif aquitain, ne serait pas le président de l'Assemblée régionale. Martin Malvy, président de la région Midi-Pyrénées de l'exécutif, ne serait pas le président de la région Midi-Pyrénées. Et je peux vous dire par expérience, enfin, je ne peux pas vous dire par expérience, puisque je ne l'ai pas vécu. J'ai vécu ce qui existe. Mais si l'Assemblée régionale avait un président et l'exécutif son président, les relations entre les élus, les commissions travaillant dans l'Assemblée et l'exécutif seraient totalement différentes. Je me souviens, et je termine, avec Martin Malvy précisément, nous avons été invités à participer à la session de questions au gouvernement catalan par le Parlement catalan. C'est exactement ce que je vous définis là. C'est-à-dire que l'Assemblée parlementaire catalane posait des questions à l'exécutif catalan. Et ça donnait un débat animé, intéressant. Ce débat-là ne peut pas exister en France, parce qu'on n'a pas du tout la même structure. Qu'est-ce qui empêche, dans les textes régissant l'acte 3 de la décentralisation, de franchir cette étape ? En posant la question, je vois bien toutes les difficultés. Mais si on veut faire avancer réellement la démocratie, réconcilier les citoyens avec la politique, faire en sorte que les choses leur soient beaucoup plus, je dirais, perceptibles, faire en sorte qu'ils ne soient pas appelés uniquement entre deux mandats à se prononcer, enfin, au début d'un mandat et à la fin, qu'ils soient, je crois qu'il faut aller dans ce sens. C'est tout simplement, je dirais, le sens du bouquin qu'on a écrit. Et je termine, c'est un bouquin, ça a été dit, qui ne se veut pas anecdotique, qui ne se veut pas, qui se veut, il repose sur une expérience, qui est notre expérience midi-pyrénéenne, mais c'est un bouquin qui s'adresse à l'ensemble des régions, parce qu'on considère que ce que l'on dit dans ce livre, peu ou prou, mais on n'a pas eu assez de débats avec d'autres régions, ça doit bien exister ici ou là, un peu de la même manière. Et c'est ce débat-là qu'on aimerait bien engager autour de cet ouvrage.
Merci. Si vous voulez bien, on va ouvrir rapidement le débat. J'aurais quand même une première question à vous poser. C'est dans ce que vous avez dit, qui est ramené à la bonne volonté, en quelque sorte, d'acteurs susceptibles de s'entendre. On a quand même une expérience qui ne marche pas si mal, quand même. Toujours gênant quand on est soi-même un peu impliqué. On trouve toujours que ce qu'on fait n'est pas trop mal, même si on ne le fait qu'en tant que permanent. La politique contractuelle, quand même, n'est-elle pas un moyen ? Est-ce qu'il n'y a pas des voies de contractualisation permettant, en effet, de permettre à des acteurs à niveaux différents d'aboutir ensemble à un certain nombre de résultats ? Même si ça peut paraître un peu misérable en regard d'ambition plus... pour réguler les relations entre les différents acteurs dont vous parliez.
C'est-à-dire que ce soit pas
que ce soit pas simplement une conférence, mais que ce soit un outil d'objectifs communs définis, avec des moyens eux-mêmes définis. On a eu l'expérience, moi, j'avoue, je parle à titre tout à fait personnel, mais enfin, en étant impliqué dans l'institution, j'étais pas convaincu quand il y a eu quand la loi de novembre 2009 est sortie, que les fameux contrats de plan régional de développement des formations professionnelles allaient donner des résultats extraordinaires. Le travail commun qui a été mené avec les services de l'État a produit un certain nombre d'initiatives qui ont marché pas si mal. Donc, bon, la contractualisation peut, dans un pays qui a apparemment beaucoup de difficultés à renoncer à son État central sacré, si j'ose dire, à trouver une voie et moyen pour faire des réformes intelligentes et des actions communes qui tiennent debout. Là, je me fais un peu, non pas l'avocat du diable, mais bon...
Non, mais dire que c'est complètement d'actualité, puisque, enfin, c'est, je crois, une politique voulue au plus haut niveau par le président de la République, mais c'est basculer précisément dans des démarches contractuelles et des démarches de on discute... on conclut et on passe un contrat. C'est tout ce qui vient de se passer sur le droit du travail. Donc, faut pas dire que... Enfin, je pense que les régions, et c'est pas pour rien qu'elles sont passées de la cuisine du F4 à un grand immeuble maintenant, c'est quand même qu'elles ont fait du bon travail.
Oui, exactement. Ce n'est pas dû à la mégalomanie, je rassure.
Mais quand je dis frustration, c'est parce qu'avec... Sans plus d'argent, et exactement avec les mêmes moyens, on pourrait faire énormément plus. Et ça passe par des simplifications. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des alors, je ne sais pas, ça ne s'appelle pas trop des... On passe des conventions. Alors ça, oui. Les conventions à tout crin, on passe des conventions à tout crin. Mais bon, pourquoi les conventions souvent ne marchent pas? Et Louis l'a souligné. C'est parce que dans les conventions, on retrouve les départements, les communautés de communes, machin, la région, tout ça. Mais quand il s'agit, y compris dans le cadre conventionnel de prendre des décisions, il faudrait, alors ça a été avancé plusieurs fois, une notion de chef de file. Voilà. Quand même, quelqu'un qui pilote. Quoi. Or, la notion de non-hiérarchie des collectivités, elle bloque tout. Moi, je cite une expérience que j'ai vécue en direct en 2002. En 2000, c'était le développement des réseaux haut débit en Midi-Pyrénées. La région avait de fait, alors qu'elle n'en avait pas du tout formellement, avait pris le pilotage et on était chef de file. Tous les départements étaient venus. L'État, la Caisse des dépôts, les départements, tout le monde travaillait avec, on va le dire, un chef de file qui était à Lyon. Et puis, je me demande si, en fait, ils avaient vu le coup, mais il y a deux départements, dont le département métropolitain, qui, au moment où on allait prendre des décisions, a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» La région chef de file, pas question. Et donc, tout s'est arrêté. Et donc, il n'y a pas eu de déploiement de réseau haut débit sur la région. Donc, la région n'a plus piloté. Les départements se sont dit, puisqu'il y a un plan gouvernemental maintenant de développement d'un réseau haut débit, et les régions ont dit, ben, on y vient. Donc, ils se sont tous mis à vouloir mettre leur projet. Et puis, comme ils se rendent compte quand même que c'est comme si vous voulez faire un réseau de chemin de fer en Gironde et que vous laissez Hollande le soin de faire un autre réseau de chemin de fer, il y a des chances que ça ne marche pas bien, quoi. C'est exact. C'était vrai entre l'Espagne et la France, mais on s'est rendu compte quand même qu'il fallait corriger un peu les choses. Mais c'est exactement pareil sur les réseaux haut débit. Il y a des problèmes d'opérationnalité, etc. Donc les départements, maintenant, ils disent aux régions, ah, il faudrait que vous repreniez le pilotage. Ça, c'est quand même intéressant. Mais dans les décisions sur la loi décentralisation, eh bien, le gouvernement annonce que ce sont les départements qui auront la responsabilité des réseaux haut débit. Donc, en fait, on fait un peu n'importe quoi. Alors, la démarche contractuelle, moi, j'y crois beaucoup, mais je pense que pour qu'elle aboutisse, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qu'on peut appeler, enfin, c'est le concept de chef de file. Martin Malvy, on en parlait un jour, me dit, tu comprends, il y a trop de files de chef. Ben, je lui dis, oui, mais voilà, il faudrait simplifier. Et puis, la notion de non-hiérarchie des collectivités. Il faut quand même, quelque part, qu'on sache qui pilote et qui commande.
Sur la contractualisation, je voudrais dire quand même deux ou trois choses. La première, c'est que ça a un intérêt de contractualiser entre collectivités quand les collectivités sont effectivement porteuses de choses différentes et que cette contractualisation donne en quelque sorte des garanties démocratiques par rapport à des expressions démocratiques qui se font à des niveaux différents du territoire. Oui. C'est une façon de voir les choses et on peut aller dans cette direction-là. Mais d'un autre côté, quand on regarde les champs de contractualisation sur lesquels on a travaillé pendant ces dernières années, j'étais optimiste sur certains d'entre eux. Et moi, je suis extrêmement pessimiste sur d'autres. Prenons une compétence qu'Alain connaît bien, qui est la compétence enseignement supérieur, dont il était responsable à la région, en tant qu'élu, et moi, en tant qu'administratif. Nous avons passé des contrats de plan sur l'enseignement supérieur en Midi-Pyrénées. Combien y avait-il de signataires? Combien y avait-il de signataires? La région, l'État, les 8 départements, les 8 préfectures, tous les établissements universitaires. Ça faisait, de mémoire, une vingtaine de signataires. On a fini de signer le contrat à la fin du contrat, alors que tout était fini. Et ça a été infernal de renégocier chacune de ces choses avec les différents partenaires. Je dis, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Sur une compétence qui, de plus, restait une compétence d'État.
D'État,
bien sûr.
Non, mais je veux dire, je ne suis pas un fanatique du privé. Mais enfin, on mettrait en place des procédures comme celle-là dans le privé, mais les entreprises, elles crèveraient la gueule ouverte au bout de 3 jours. Je veux dire, c'est impossible. Bon, donc, je crois que sur l'enseignement supérieur, il ne faut pas faire ça. Il faut soit que ça reste une compétence d'État, si on considère que ça reste une compétence d'État, soit que ça soit peut-être une compétence partagée avec la région, qui, de mon point de vue, est un bon niveau universitaire. On est plusieurs à penser ça, hein, pour ce type de décision. Mais il ne faut pas qu'on ait à aller discuter pied à pied avec chaque département, chaque chef-lieu de département et chaque établissement universitaire, parce que la charge procédurale d'une opération comme celle-là, elle est infernale, elle est impossible. Et elle devient tellement complexe qu'elle ne garantit pas, c'est pas vrai, plus de démocratie. C'est pas vrai. Donc, je suis pas du tout opposé à la démarche contractuelle. Je pense qu'elle peut être utile et plus garante de démocratie dans certaines situations. Mais il faut éviter de considérer que tous les niveaux doivent être a priori compétents sur tout, parce qu'on n'en sort pas, parce que c'est pas gérable. Je pense que il serait raisonnable, si on allait dans le sens de ce qu'on dit dans notre bouquin, et qu'on se dise « allons vers ces 4 niveaux de pouvoir », il serait raisonnable de dire « allons vers ces 4 niveaux de pouvoir en 10 ans, et le total de l'opération, ça doit faire 10% de moins pour tous les financements ». Ça, ça serait raisonnable.
En tout cas, on ne peut que vous conseiller la lecture de cet ouvrage, qui, encore une fois, est un ouvrage qui a une grande qualité, il est lisible. Hein, je le dis en présence des auteurs. Il arrive à exprimer des choses sérieuses d'une manière accessible. Ça, c'est quand même une qualité importante. Le débat va certainement demeurer ouvert, hein, d'après ce qu'on vient d'entendre. Je pense que personne ne sera en désaccord avec une idée de ce type. On va peut-être vous laisser le temps, éventuellement, si vous voulez faire l'acquisition de l'ouvrage pour ceux qui ne l'ont pas. Si vous n'avez pas d'autres questions, pour rester dans les délais qui nous ont été impartis. En tout cas, je voudrais remercier nos 3 auteurs et amis, les rassurer sur le fait que, comme ils ont parlé dans un immeuble qui appartenait à Montesquieu, un tout petit peu plus loin, quand ils ont évoqué les corps intermédiaires, on peut quand même supposer que, d'une certaine façon, l'esprit a soufflé, n'est-ce pas? Ici, on peut espérer qu'il va continuer de souffler. En tout cas, merci d'avoir accepté de descendre de 136 mètres pour venir nous rendre visite. C'est très important. Depuis la prairie des filtres, vous avez perdu 136 mètres d'altitude. Donc, bon, c'est important quand même. C'est très courageux de votre part. Hein.
145 mètres au Capitole.
Hein. Et alors, au Capitole, c'est encore plus haut. Donc, voilà, absolument. Bon. Alors, en tout cas, merci. Merci vraiment à vous 3. Et puis, nous allons parler de l'ouvrage et continuer le débat, chacun dans nos propres cercles et activités.
Eh bien, merci. Merci.